Vous écoutez
RMC. RMC, Intégral Foot.
Oussem Loussaïès, Thibaut Giangrande.
Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue sur RMC pour votre rendez-vous du dimanche 13h. Il n'y a pas de Ligue 1 aujourd'hui, il n'y a pas de match. Mais il y a quand même notre membre de la Dream Team, Manu Amoro. Salut Manu.
Salut, bonjour Sam.
Salut Manu.
Ouais, félicitations, c'est vrai que... je voulais te féliciter pour
merci, Manu.
Cet heureux événement.
Eh oui, je suis champion du monde. Merci Manu, je suis champion du monde, ça y est.
Tu sais, il ne vaut pas être champion du monde, mais avoir un enfant, c'est quand même
c'est beau ce que tu dis,
un
Manu.
Moment extraordinaire.
C'est beau ce que tu dis, Manu, ouais. Merci.
C'est magnifique. Ouais, sauf que champion du monde, voilà, c'est. Il y a des similitudes, hein. Genre, t'as sa vie.
Champion du monde, tu gardes. Si tu es champion du monde tout le temps, tu gardes à vie aussi. Ouais. Mais malheureusement, c'est moins sûr. Quoi.
Ouais, après, la différence quand même, c'est que champion du monde, ça travaille moins la nuit que.
Exactement.
C'est ça.
Manu, oui. T'as vibré devant l'équipe de France hier soir. Hein,
oui, j'ai vibré, bien sûr, comme dans tous les matchs.
On va en parler dans un instant.
Allez, on passe au sommaire. Les Jeux paralympiques s'achèvent aujourd'hui avec 54 médailles pour les Français, une vingtaine de plus qu'à Rio. Deux champions sont avec nous, Stéphane Oudé à 14h20 et Marie-Amélie Le Fur dans quelques minutes. Avec Manu, vous avez entendu, on reviendra sur le match nul des Bleus en Ukraine, un but partout. Venez nous dire au 32-16 si, comme Manu, vous trouvez que Léo Dubois peut rendre service aux Bleus s'il n'est pas sur le terrain. 14h30, l'US Open avec la France qui ne gagne toujours pas. Pas de Français donc en deuxième semaine. On maintient notre bon rythme de 2021. RMC et le rugby, c'est nous. Vous avez l'habitude maintenant. Toutes les affiches de cette première journée du top 14 sont en direct sur RMC. On se concentrera sur l'affiche du jour entre La Rochelle et Toulouse. Et enfin à 14h40, Grand Prix des Pays-Bas. Verstappen peut-il s'imposer à domicile sans accuser Hamilton de tricherie? Réponse avec Jean-Luc Roy.
Vous le savez, l'intégral foot tous les dimanches avec vous, c'est sur le hashtag RMC Live, l'appli RMC, le direct studio au 32-16 également, plus que jamais aujourd'hui. N'hésitez pas, venez interpeller Manu Amoro. Est-ce que vous êtes inquiet pour cette équipe de France ou pas? Moi, je suis pas inquiet personnellement, je vous le dis. Donc n'hésitez pas. Manu non
plus. Moi, je suis inquiet.
Venez nous dire si vous êtes inquiet comme Oussem ou pas. On vous attend au 32-16 et puis vos messages comme Tav par exemple qui nous écrit à l'instant comme quoi quand il veut, il cadre.
Parce que c'est tu ne connais pas mes talents devant le but.
En attendant le foot est notre premier invité. Nous sommes en direct avec Morgane Maury, envoyé spécial au Japon depuis le début de l'été. Il y a eu les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques qui s'achèvent en ce moment même. Salut Morgane.
Bonjour l'équipe, bonjour à tous.
Salut Morgane. Salut Morgane.
Et donc c'est parti Morgane pour cette cérémonie de clôture de ces Jeux Paralympiques.
Oui, elle vient de démarrer il y a quelques instants au stade olympique de Tokyo, démarrée par un compte à rebours effectué par des volontaires et des athlètes qui ont égrené les nombres de 30 jusqu'à 0. Ça commence par une partie musicale et dansante avec beaucoup de couleurs fluo sur ce stade olympique, avec un DJ avec son MPC, sa boîte à rythme qui lance des sons, ça danse, ça chante, et on arrive maintenant dans un autre spectacle de danse avec un danseur malvoyant. Et sur la pelouse du stade olympique, qui était stade d'athlétisme pendant ces Jeux Olympiques, il y a déjà des délégations qui sont présentes. Les athlètes vont faire la fête dans quelques minutes. La France sera emmenée par le jeune Alexandre Léauté, 20 ans, qui a emmené 4 médailles pendant ces Jeux Paralympiques, dont une médaille d'or lors de la poursuite en cyclisme sur piste.
Merci Morgane Maury, reste connecté, et puis s'il se passe quoi que ce soit, n'hésite pas, tu as l'antenne libre pour toi. Tu coupes Manu, tu coupes Thibaut, tu me coupes, tu fais ce que tu veux, tu es chez toi Morgane.
S'il y a une médaille ou quoi, tu n'hésites pas.
Non, mais s'il y a un bel événement
c'est bloqué à 54.
Ouais,
on va peut-être en récupérer une autre à cause d'une affaire de dopage à suivre.
C'est pas vrai.
Ah bah tiens, tiens-nous au courant.
Peut-être bon. Une médaille.
Nous, on aime bien récupérer les médailles des autres, donc n'hésite pas.
Merci Morgane. Bah,
quand il y a tricherie, c'est normal.
Hein.
Tout à fait, Manu. Nous sommes en direct avec Marie-Amélie Le Fur, vice-championne olympique paralympique sur la longueur sur ces Jeux de Tokyo. Bonjour Marie-Amélie.
Bonjour à tous.
Merci beaucoup d'être en direct sur RMC. Tu te trouves où là physiquement, parce qu'on était avec Morgane sur la cérémonie de clôture. Tu es toujours à Tokyo?
Oui, je suis toujours à Tokyo et je suis dans le stade pour la cérémonie de clôture.
Et alors, raconte-nous, c'est comment? Ça pas encore. T'es dans les coursives? On attend un petit peu le passage?
Ben oui, je suis dans les coursives, mais surtout là, je suis avec ma casquette de présidente, donc je ne défilerai pas, je serai pas aux côtés de l'équipe de France, je serai dans la tribune pour les regarder et profiter pleinement de cette cérémonie.
En tout cas, à entendre ta voix, Marie-Amélie, tu as déjà profité en tout cas de ces Jeux. Tu as le temps de profiter. Marie-Amélie, rentrons dans le détail de cette semaine que tu as passée. Toi, la multimédaillée, est-ce que c'est une satisfaction de repartir avec l'argent de Tokyo?
C'est une satisfaction, mais pas sans frustration, hein, ouais. Pas se le cacher. Je venais pas chercher la médaille d'argent, je venais chercher l'or, le record du monde. Mais le jour J, j'ai pas été en capacité, d'être totalement disponible, de faire finalement mon meilleur saut ou d'atteindre mon meilleur niveau. La fin de préparation avait été très compliquée, donc on savait potentiellement que ce serait un concours compliqué. On va chercher une belle performance, on va chercher une belle médaille d'argent, mais vraiment ce qui a guidé ce concours, c'est que je voulais pas m'enfermer, je voulais prendre plaisir, je voulais profiter, et ça, c'est contrat rempli.
Marie-Amélie Le Fur est en direct sur RMC, vice-championne paralympique à Tokyo, présidente du comité paralympique et sportif français, justement sur cette casquette que tu as endossée de nouveau après ton concours terminé. Marie-Amélie, 54 médailles pour la délégation française, 11 en or, presque deux fois plus qu'il y a 5 ans à Rio. Comment vous avez fait? Est-ce qu'il y a des conseils pour les valides également pour Paris 2024?
Non, comme on a fait, je pense qu'il y a eu un énorme travail fait par le mouvement paralympique, pour le mouvement paralympique. Je pense que l'arrivée des Jeux à Paris en 2024 a vraiment mis la lumière sur ce qu'étaient les besoins du mouvement paralympique, des besoins financiers, des besoins humains, des besoins de reconnaissance, des besoins d'accompagnement scientifique auprès des sportifs de haut niveau paralympique. Donc ça, voilà, c'est des éléments qui sont en train de se mettre en place, qui commencent à payer. Les fédérations sont beaucoup plus en capacité maintenant d'accompagner les sportifs de haut niveau. Et puis, il y a un autre élément qui est fondamental, c'est celui de la réussite. La réussite encourage la réussite. Donc, quand vous avez des jeunes qui, dès les premiers jours, des athlètes qui, dès les premiers jours, réussissent, brillent, et bien finalement, ça met l'équipe de France dans un état d'esprit extrêmement positif. Et chaque jour, on avait un tableau des médailles qui était extraordinaire. Et cette équipe de France, elle avait plaisir à être ici, elle avait plaisir à performer. Moi, je suis passée sur les différents sites, j'ai vu des collectifs extraordinaires qui, voilà, même s'il n'y avait pas de public, qui s'encourageaient les uns les autres. Et je pense que ça a été aussi la différence et ce qui a permis à des sportifs, voilà, d'avoir ce supplément d'âme pour aller chercher la médaille, même quand c'était très difficile.
Morgane Maury, notre reporter présent sur place à Tokyo, a une question pour toi, Marie-Amélie.
Oui, Marie-Amélie, qu'est-ce que vous trouvez à ces jeunes qu'on estampillé Paris 2024 et qui ont déjà été en mesure de performer et de beaucoup gagner pendant ces Jeux paralympiques? On pense à Alexandre Léauté, 4 médailles, Hugo Didier qui est en natation, qui a 19 ans, qui a fait 2 médailles, Alex Portal, 19 ans, 2 médailles, Alexandre Loveras, 21 ans, 2 médailles dont un titre. Ils sont incroyables, ces jeunes, et ils sont déjà prêts pour dans 3 ans.
Ben effectivement, c'est des résultats qui sont incroyables. Moi, tout ce que je leur souhaite, c'est de continuer, c'est de capitaliser sur l'expérience qu'ils ont vécue à Tokyo, sur l'expérience qu'ils nous ont fait vivre à Tokyo, pour revenir encore plus fort, encore plus grandi aux Jeux paralympiques de Paris. Voilà, des médailles, elles peuvent se transformer, elles peuvent se concrétiser. Et quand on est deuxième, on peut aller chercher un titre paralympique. En tout cas, c'est tout ce que je leur souhaite. Et puis, tout simplement, ces jeunes, j'ai envie de les remercier de nous avoir fait vibrer, et de les remercier de l'état d'esprit qu'ils ont eu. Ils ont été exemplaires sur les terrains sportifs, en dehors des terrains sportifs, dans les zones médias. Et je pense que on a besoin aussi, voilà, de sportifs qui partage avec le grand public pour faire connaître le mouvement paralympique.
Merci beaucoup en tout cas.
Valide, il parle très bien, et il y en a beaucoup qui font de grandes études aussi. Il y en a des très forts, attention, il y a des visages à retenir pour dans 3 ans.
Morgane est prêt pour 2024.
Merci Marie-Amélie Le Fur. Tu
n'es pas viré.
9 fois médaillé.
Ça peut aller vite. Hein.
Ah ouais, tu sais, là, ce métier-là, ça va vite. Hein. Fais gaffe.
Non, mais ça dépendra de ses notes de frais, mais normalement, ça devrait aller.
Pas sûr. Merci Marie-Amélie Le Fur d'avoir été en direct.
Merci Marie-Amélie.
Vice-championne paralympique cet été, c'est 9 médailles en tout. Il y avait eu 3 titres par le passé pour Marie-Amélie Le Fur, qui est également présidente du comité paralympique et sportif français. Bonne cérémonie de clôture à toi, Morgane. On te retrouve tout à l'heure, 13h12, RMC.
Retrouvez tout le meilleur du sport sur RMC avec Société Générale, partenaire officiel de la Fédération française handisport depuis 2003.
L'équipe de France, c'est nul, match nul, le cinquième de suite pour les champions du monde. Un partout en Ukraine hier soir, l'ouverture du score de Chaparenko à la quatrième. Anthony Martial a répondu à la cinquantième.
Faut pas se louper, Martial face à Piatov, il a voulu lui mettre entre les jambes. Et au dernier moment, cette frappe de Martial, quelle occasion pour l'équipe de France. Avec le ballon, peut-être pour Yulianov, Galvan frappe derrière, et le but.
Ce qui est un peu inquiétant quand même pour l'équipe de France, c'est qu'offensivement ils ont du mal, mais défensivement c'est pas ça non plus. Hein.
La tête de Dariot, l'arrêt Yatov, elle est rentrée. Elle est rentrée cette balle. Mais oui, avec c'est l'égalisation pour l'équipe de France de la part de Martial. C'est terminé ici à Kiev avec le match nul de l'équipe de France face à l'Ukraine. Encore un match nul, cinquième match nul consécutif.
Thibaut, mais à qui est cette voix?
Je crois que c'est Arnaud Valadon.
Arnaud Valadon? Eh bien, c'est Jeannot Rességuier qui est avec nous. Salut Jeannot.
Salut, c'est Arnaud, ça va?
Jeannot, on imagine que tu as passé une bonne soirée, vu ce qu'on vient d'entendre.
Salut Manu. Oui. Bah, écoute, on a du mal en ce moment à vibrer avec cette équipe de France. Et on se pose beaucoup de questions. J'espère qu'on n'est pas les seuls. J'espère que les joueurs vont finir par s'en poser et que peut-être Didier Deschamps va finir par se poser les vraies questions pour trouver les bonnes solutions. Parce que là, la convalescence dure depuis l'élimination de l'Euro en huitième de finale.
Tiens, parlons des convalescences. Thibaut, Aurélien Tchouaméni sorti à la blessée à la 83e. Est-ce qu'on a des nouvelles? Tchouaméni.
Ah, pardon. Tu penses que j'avais mal prononcé pour sa première titularisation, oui. Tchouaméni. Écoute, des dernières infos, c'était hier soir de la part de Didier Deschamps. C'était plutôt rassurant, ou en tout cas pas inquiétant. Juste un coup au niveau du pied. Donc voilà, on n'a pas eu d'infos aujourd'hui parce qu'on ne les verra pas, parce qu'ils vont s'entraîner à huis clos ici au Stade Olympique. Ils restent là et partiront demain matin directement pour Lyon. Mais voilà, les dernières infos, c'est que ça avait l'air moins grave que prévu. Le staff de l'équipe de France attend aussi de la part de l'UEFA et de la FIFA, puisque c'est les éliminatoires de la Coupe du Monde, des précisions quant à Koundé. Est-ce qu'on en reste au match automatique après son expulsion face à la Bosnie à Strasbourg au mercredi, ou est-ce qu'il peut être sanctionné d'un match supplémentaire? Les derniers échos qu'on a, mais on n'a aucun moyen de vérifier pour l'instant, dans la mesure où l'information devrait arriver demain à la Fédération française de football. Il est possible qu'il n'ait que le match automatique, donc il pourrait être peut-être disponible pour mardi, mais bon, là c'est un peu s'avancer. C'est juste un écho qu'on a eu comme ça, et oui, on attend des précisions définitives demain, quoi.
Manu, on parlait d'Aurélien Tchouaméni, bien évidemment. Oui. Toi aussi, tu as été satisfait de ce qu'il a montré sur le terrain?
Ben oui, pour sa première prestation comme titulaire en équipe de France, il a été très bon. Il a été très actif au milieu de terrain. Il a essayé de combler un petit peu tous les espaces que laissaient Pogba et Rabiot. Et c'est vrai que techniquement, c'est un joueur de grande qualité, parce que il sait bien la manier le ballon. Chaque fois, il sait donner le ballon vers l'avant. Et quand tu regardes bien son jeu, il va toujours vers l'avant. Oui. Alors, il récupère le ballon et il fait le contrôle, il fait le contrôle orienté. Il regarde devant lui pour pouvoir s'il peut donner vers l'avant. Après, malheureusement hier, il n'y a pas eu assez de mouvement non plus. Donc il a eu du mal à trouver ses partenaires. Donc des fois, régulièrement, il a donné le ballon soit sur les côtés, soit en arrière. Mais c'est un joueur de qui va prendre racine avec.
On va en parler dans quelques instants, un peu plus en détail d'Aurélien Tchouaméni.
Il a été juste plus à l'aise en deuxième période dans un système de jeu plus monégasque, à deux milieux et pas en sentinelle comme un 4-3-3 qu'il va falloir quand même mettre au placard.
Parce qu'Aurélien Tchouaméni, c'est peut-être la seule bonne nouvelle d'hier soir. Donc on va se faire plaisir dans quelques minutes. Vraiment, on va prendre le temps d'en parler. Juste, on va écouter le capitaine Hugo Lloris après la rencontre hier soir. Et pour une fois, il y a quelque chose à retenir de ce qu'il a dit après le match. Écoutons.
Il y a les exigences du très haut niveau et on se doit d'y répondre. Je pense que c'est fini. L'euphorie de l'après-Coupe du Monde 2018, où on sentait qu'à tout moment on pouvait faire basculer les résultats en notre faveur. On était sur une vague de réussite et elle s'est un petit peu cassée. Donc c'est à nous de retrouver ces choses positives à travers bien sûr les performances, mais surtout les résultats.
Manu, comment on fait pour retrouver une vague positive?
Non mais il a raison. Je crois que la Coupe du Monde c'est du passé.
Mais ça fait quand même 3 ans. Heureusement qu'il le dit.
Oui, mais il y a encore des joueurs qu'on a l'impression qui vivent sur cet acquis-là. Oui. Alors qu'il y a eu l'Euro, qu'ils n'ont pas été très bons non plus. Donc il faut arrêter. Je crois qu'ils arrivent maintenant à jouer vers leur qualité. Leur qualité, c'est à l'entraîneur aussi de voir comment on peut faire évoluer les joueurs de qualité dans un schéma tactique qui peuvent leur convenir. Le 4-3-3, comme ils disaient. Jeannot, il faut qu'il le laisse au placard. Il faut qu'il revienne. Non, mais il a raison, Jeannot. Il faut qu'il revienne maintenant à un schéma tactique où les joueurs peuvent s'exprimer totalement. On a vu Griezmann aussi qui a pas été non plus à la hauteur. On lui demande d'organiser le jeu, mais il a fait plus défendre que prendre le ballon et organiser le jeu. Donc à un moment donné, il faut qu'il se pose Deschamps les bonnes questions aussi.
Il est 13h17. Vous êtes sur RMC l'intégral foot avec Oussem, avec Manu Amoros, notre membre de la Dream Team, champion d'Europe 84, et avec Jeannot Rességuier en direct du Kiev pour les dernières nouvelles des Bleus au lendemain du match nul un partout. Jeannot, t'en as parlé un peu, Manu également, ce système là, ce 4-3-3. On a l'impression que Deschamps cherche toujours la meilleure formule, mais le début du match, il s'entête avec son 4-3-3. Et on a vu hier que ça a été mieux après, quoi.
Bah, l'avantage, c'est qu'au moins, il change en cours de match. Donc, ça, c'est plutôt positif. Ça veut dire qu'il s'est rendu compte que ça n'allait pas et il l'a fait à la mi-temps, comme il l'avait fait, souvenez-vous, face à la Suisse. Bon, on reviendra pas sur ce qui s'est passé à partir de la 80e, mais au moins, il y avait eu quelque chose de différent. Et on a une équipe en réaction, qui n'est plus en action, alors que jusqu'à présent, c'était une équipe de France qui maîtrisait beaucoup mieux les situations, même quand elles étaient complexes. Le 4-3-3, ça peut être bien au milieu de terrain quand tu as Kanté, par exemple. Mais c'est pas bon quand tu as des joueurs comme Benzema, comme Griezmann, ou encore comme Martial avec Coman. Ce sont des joueurs qui se sont marchés sur les pieds, quoi. Martial, il est resté devant, il a pas bougé, mais parce que c'était la différence avec Benzema qui dézonnait. Mais quand on a vu Benzema en deuxième période, qui justement dézonnait et jouait une touche de balle, c'était plus le même match, quoi. Ouais. C'était plus la même chose. Donc, je pense que il faut que maintenant, on prenne vraiment conscience que l'équipe de France a d'autres arguments qu'elle avait à une certaine époque avec le 4-3-3 et que maintenant, il faut proposer autre chose, quoi.
Mais Jeannot, pourquoi attendre la mi-temps pour pouvoir changer? Il y avait la possibilité de faire descendre Coman sur le côté avec Rabiot un peu plus dans l'axe, avec Tchouaméni, avec Pogba et Martial et Griezmann dans l'axe. Ça aurait été aussi dans le match, en voyant que tu avais des grosses difficultés à t'imposer, que ce soit gagner des duels, que ce soit collectivement et techniquement de pouvoir organiser, il fallait changer assez rapidement.
Ouais, mais je suis d'accord, mais il avait des convictions, alors certainement pas des certitudes, mais Deschamps, s'il part sur le 4-3-3, c'est qu'il pense que c'était le meilleur moyen de mettre les joueurs dans des bonnes conditions avec des formes disparates. Mais le 4-3-3 avec Griezmann sur un côté, ça sert strictement à rien. On s'en rend compte de plus en plus, quoi.
Et on est avec Nicolas, qui est au 32-16, supporter de l'équipe de France. Salut Nicolas.
Salut à tous.
Salut Nicolas. Alors, t'as passé une bonne soirée hier soir devant cette Ukraine France.
Ouais, j'ai pris le match à la 10e minute. Je crois que j'écoutais sur la RMC, c'était déjà pas très palpitant.
Ces histoires de système, Nicolas, ce 4-3-3 qui quand même semble ne pas marcher. Alors depuis peu, hein, depuis 6-8 ans. comment tu vois cette équipe de France?
Comment tu aimerais la voir?
Au-delà d'un système, c'est le surjeu de certains joueurs, des joueurs, j'ai l'impression qu'ils surjouent. Ouais. Enfin, Ilias n'était pas là pour tout, mais sur le match.
Tu penses à qui, Nicolas?
Bah, il y a Mbappé surtout Mbappé. Bah, il me déçoit beaucoup depuis quelques temps, mais après ça c'est que moi, je pense. Enfin, il y a pas mal de gens aussi. J'ai l'impression qu'ils surjouent. Mais en fait, quand les joueurs viennent les nouveaux comme Tchouaméni et autres, j'ai trouvé Tchouaméni meilleur sur le match d'hier que le match quand il est rentré à la mi-temps, au dernier match. Et ces joueurs-là, du coup, les Mbappé, quand ils surjouent, les autres sous-jouent, en fait. J'ai l'impression qu'ils ont une pression énorme et ils doivent leur donner la balle à ces joueurs-là, que ce soit Mbappé, Benzema ou même des fois des Griezmann de temps en temps. C'est plus un aspect de... Hier, j'y croyais vraiment quand on voyait Griezmann et comment il s'appelle en attaque?
Martial,
merci. En attaque, j'y croyais vraiment avant le match et après, plus le match passait, je me dis, mais il y a vraiment un problème. On dirait que les joueurs sous-jouent, en fait. Ils sont pas dans leur mouvement. Et hier, il y avait moins de fautes aussi. Donc le 4-3-3, c'est sûr que les défenseurs font plus de fautes, ils sont obligés de cartonner, quoi. Quand il y a eu un carton rouge déjà, alors que c'est pas souvent qu'il y a des cartons rouges en équipe de France, c'était en 4-3-3. Il n'y a pas assez de défenseurs. En fait, les attaquants ne défendent pas assez sur le 4-3-3, et ça, c'est une certitude aussi.
Manu, ton avis sur ce système, c'est vrai qu'il y a ce 4-3-3, ce 4-2-3-1, pourquoi on voit une telle différence en équipe de France, et pourquoi Didier Deschamps s'entête avec ce 4-3-3?
Le 4-3-3, c'est ce qu'on met, l'entraîneur met sur le tableau noir, d'accord? Après, ce qui importe, c'est l'animation qu'on met à l'intérieur de ce 4-3-3.
Ouais, mais attends, Manu, sur le match d'hier,
c'est ce qu'ils ont fait. Oui, mais les joueurs, quand ils voient qu'ils sont en difficulté, c'est à eux à se dire sur le terrain de changer de système, ou alors de dire, écoutez, là on est en difficulté, eh ben on va redescendre d'un cran et on va les attendre. Et puis on va faire un bloc assez compact pour que il y ait rien qui passe. Pourquoi ils ne prennent pas l'initiative eux-mêmes de pouvoir changer chaque fois? Pourquoi attendre la mi-temps que ce soit l'entraîneur qui leur dise de changer?
Parce que c'est le taureau
par les cornes et
le
y aller.
T'écoutes le patron, Manu.
Ouais, mais toi, à ton époque, Manu, c'était les joueurs qui prenaient la décision.
Il faut arrêter d'écouter le patron. Le patron, il n'a pas toutes les solutions possibles. Il ne joue pas, le patron. Il donne les directives. Après, c'est aux joueurs. Et comme on disait, dans l'animation, qui est très important, mais dans l'animation, il faut aussi savoir se mettre au service de l'équipe. Et hier, ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait.
C'est depuis pas mal de temps.
Oui, bien sûr. Ouais,
mais
oui,
Manu,
attends.
Si jamais t'écoutes pas le patron, si demain Manu Oussem arrête d'écouter le patron, bah il dégage. C'est pas rien.
Et s'il gagne en ayant pris l'initiative de vouloir changer un petit peu le système que le patron il a fait. Et s'il gagne, il va dire quoi?
Je suis d'accord avec toi. Nicolas, tu es d'accord avec Manu?
Savoir s'adapter, c'est savoir faire la différence.
Mais bien sûr, Jeannot, tu as raison.
Savoir s'adapter, oui.
Tu as raison.
Nicolas.
Ouais, savoir s'adapter, oui, mais comme le disait en conférence de presse à la Coupe d'Europe, tout le monde lui posait la question comment il va évoluer avec son 4-3-3. Et Deschamps, il disait, non, mais il n'y a pas vraiment de formation, ils vont pouvoir glisser à droite, à gauche, Pogba ou autre, ils vont pouvoir faire ci. Et en fait, on l'a vu le désastre. Moi, je pense que Deschamps a son idée en tête, il veut faire son 4-3-3. Mais les joueurs veulent faire leur manière ailleurs. Moi, Pogba, c'est un joueur que j'adore. Franchement, ce joueur-là, depuis longtemps, j'adore. Hier, il était moyen. Il avait des fluences, mais à un moment donné, il perd la balle en défense et il comprend pas. En fait, ces joueurs-là n'ont pas l'envie de faire le système. Ils compensent pas.
Mais c'est vrai que ils perdent
une balle et comprennent pas.
J'entends Nicolas ce que tu dis, Manu également. C'est vrai que c'est intéressant, mais tout le monde ne peut pas faire ça. Par exemple, on voit au Portugal, le patron c'est le Portugais, c'est Cristiano Ronaldo, c'est lui. Il est capable de faire ce genre de choses. Mais en France, qui peut faire ça? Qui peut dire, Deschamps, tu
es là?
Jeannot, toi qui es au quotidien avec les Bleus, est-ce que tu sens que les joueurs ont cette part de responsabilité à prendre aussi?
Bien sûr, c'est évident. Après, des joueurs capables de prendre les affaires en main, les deux qu'on a cités, Griezmann et Pogba, ils l'ont déjà fait par le passé, surtout Griezmann, et notamment à l'Euro. Après, je veux bien qu'on entende sur le fait que le sélectionneur donne des directives et les joueurs ne doivent pas en déroger, mais je crois que ça a toujours existé, heureusement d'ailleurs, et c'est ce qui a fait la différence dans certaines équipes, que justement le talent et la capacité d'un joueur de faire la différence individuellement, ok, mais de faire la différence aussi pour le collectif en s'exprimant, en disant attention, on joue différemment et au cours du match de modifier des choses. Ça, c'est la base du footballeur de haut niveau. Et aujourd'hui, j'ai pas l'impression que ces joueurs-là, ils en ont toujours les capacités, les deux qu'on a cités, mais est-ce qu'ils sont à même à prendre le pouvoir comme ça dans le cours d'un match? On l'a vu à la Coupe du Monde, oui, on l'a vu un petit peu avant à l'Euro 2016, mais depuis, plus rien, quoi.
Jeannot, juste très rapidement, parce qu'on a très peu de temps, est-ce que parce que le prochain match,
moi aussi je vais pas tarder à partir,
tu prends l'avion là tout à l'heure, Finlande, c'est dans deux jours déjà à Lyon, ça sera un match important parce que ça va être l'adversaire principal dans ce groupe de qualification mondiale 2022. On a une idée ou c'est trop tôt de la compo de départ des Bleus?
Non c'est trop tôt, mais maintenant la Finlande, il faut faire attention parce que rappelez-vous qu'en novembre 2020, dans un match amical, ils sont venus s'imposer au Stade de France, alors que jusqu'alors ils n'avaient jamais perdu face à l'équipe de France. C'est une équipe qui s'est qualifiée récemment pour l'Euro. C'était la première fois qu'ils se qualifiaient d'ailleurs pour une compétition internationale. Alors c'est pas des monstres non plus, ce ne sont pas des monstres, mais ce sont des joueurs qui n'ont peur de rien. Ils l'ont déjà prouvé. Donc il faudra être costaud, il faut être solide. Alors le retour de Varane, on peut le penser. Le fait que Kimpembe souffle à son tour par rapport à ses petits soucis de cheville, c'est une possibilité. La présence de Benzema au coup d'envoi, bien sûr, dans la mesure où le match se joue à Lyon. Lyon. Et puis, bon, là, c'est pas une info, mais je l'espère, le retour ou définitivement la mise en place d'un 4-4-2 ou d'un 4-2-3-1. un schéma tactique qui permette à l'équipe de France d'être costaud.
On suit toutes les infos au plus près de l'équipe de France. Avec toi, Jeannot, avec Loïc Tanzi. Vous avez tout sur rmcsport.fr et à la radio sur RMC. Merci, Jeannot. Bon retour.
Bon dimanche.
Merci, Jeannot. À très vite. 13h27. Je remercie Nicolas d'avoir fait le 32-16. Salut, Nico. Bon dimanche. Merci. Et à très vite. Nico. Manu Amoros, tu restes là. L'intégral foot continue avec Oussem, avec vos messages sur le direct studio, sur l'hashtag RMC Live. Vos appels au 32-16. On continue de parler de l'équipe de France dans un instant, de débriefer ce match nul un partout hier en Ukraine, à deux jours déjà d'un nouveau match de qualif très important face à la Finlande. On va s'intéresser justement, Manu, à la défense, aux latéraux, mais aux centraux également. Parce qu'on a des choses à dire là-dessus, puis on reparlera quand même d'Aurélien Tchouaméni. On a une bonne nouvelle, on va pas se priver d'en parler. L'intégral foot continue, à tout de suite sur RMC.
RMC, intégral foot.
Oussem Loussaïef, Thibaut Giangrande.
Emmanuel Amoros, comme tous les dimanches, 13h, vous le savez d'habitude, c'est la Ligue 1 que l'on vit ensemble, mais la Ligue 1 est en repos. Mais pas Manu Amoros, notre champion d'Europe 84, est là pour l'intégral foot jusqu'à 14h. On a des choses à dire sur l'équipe de France, mais pas que.
Et oui, et la suite des qualifications pour ce mondial s'enchaîne donc en Europe. L'Angleterre affrontera Andorre, Allemagne, Arménie et la Suisse choque face à l'Italie. On fera un point avec notre rôle de dame sur les enjeux de tous ces matchs.
Mais d'abord, on continue de débriefer les Bleus. Ce match nul en Ukraine hier, un but partout, et on s'intéresse à l'un des points centraux de cette équipe de France.
La défense centrale.
Il y a de quoi dire.
Les ailiers, il y a beaucoup de choses à dire, effectivement, Manu.
Bah oui, Manu, on voulait revenir avec toi sur la performance de nos défenseurs. Non pas parce que toi, tu as été un grand défenseur, mais parce que tu es un connaisseur du football, et en particulier d'un poste de latéral. Il y a un joueur qui est souvent remis en question, alors, à tort peut-être, je ne pense pas, c'est Léo Dubois, le latéral.
Ça, c'est ton opinion.
Ça, c'est mon opinion. Hein? Après, je vais entendre.
Ne fais pas une généralité de tout ça, s'il te plaît.
Je veux entendre le tien. Qu'est-ce que tu penses du poste de latéral droit dans la configuration de l'équipe de France? C'est lui qui est censé animer le couloir, puisque il a tout le boulevard devant lui. Est-ce que tu trouves que c'est réussi?
Alors, animer tout le couloir, je dirais oui et non. Non, parce que il a quelqu'un devant lui quand même qui doit aussi l'observer et avoir des relais en permanence avec lui. Oui. C'est vrai, quand tu as le monopole du ballon comme l'équipe de France l'ont eu hier, c'est vrai qu'il doit amener davantage. Et leur apport a été très faible, que ce soit Dubois, que ce soit Digne, ils se sont contentés du strict minimum. Donc c'est vrai qu'il faut en demander davantage, mais aussi tu joues à l'extérieur, tu dois avoir quand même une défense solide, et ça veut dire qu'il faut aussi défendre, il faut pas non plus monter sans arrêt et faire un peu n'importe quoi. Donc avec une équipe qui est une équipe je dirais offensive quand tu as le ballon, il faut savoir aussi compenser quand tu dois le faire.
Alors c'est Léo Dubois sur le poste d'arrière droit en ce moment. Il faut dire que, parce que aussi Benjamin Pavard n'est pas là, c'est lui le titulaire habituel, mais même c'est vrai que depuis 2018 il est aussi remis en question. On a l'impression qu'il y a c'est peut-être le poste en équipe de France où on a l'impression qu'on est le moins pourvu.
Thibaut, chaque fois que tu fais des mauvais résultats, des mauvaises performances, on cible certains joueurs. Mais c'est l'ensemble du groupe qu'il faut cibler. Parce que c'est un sport collectif. Si tu défends pas bien dès les attaquants, tu risques d'être en difficulté
Manu,
derrière.
Loin de nous l'envie de faire des fixettes sur le poste de latéral droit.
Il n'a pas été bon, mais il n'a pas été bon parce qu'il n'a peut-être pas été aidé sur son côté aussi.
Oui, mais Manu, quand tu vois, franchement, si tu regardes l'ensemble de sa performance hier, sur le choix technique à chaque fois fait par Léo Dubois, c'est soit une passe en retrait, ou lorsqu'il tente vraiment de faire un centre, il ne trouve pas preneur. À un moment donné, quand tu es international de ce niveau-là, tu dois quand même apporter un peu plus techniquement. On ne dit pas qu'il est mauvais, quand tu es à ce poste-là, ce haut niveau-là, tu dois apporter un peu plus.
Je suis d'accord avec toi, mais il y a peut-être des circonstances qui ont fait hier.
Collectif.
Peut-être que Deschamps leur a dit, on ne sait pas ça, peut-être que Deschamps leur a dit, aujourd'hui, essayez d'être le moins possible offensif.
Mais Manu, dans ce cas-là, c'est à lui de se prendre en main, comme tu disais tout à l'heure.
Oui, mais après c'est le jeu qui veut que soit tu te projettes ou soit tu restes un peu plus défensif. Après, c'est une situation qui doit être compliquée, difficile, parce qu'il faut prendre certaines décisions. décision, ou tu prends la bonne décision quand tu as le ballon, mais bien sûr il faut aller amener ce plus. Et comme disait Houssen, c'est vrai que les centres n'ont pas été bons, c'est vrai, oui. Que ce soit de côté que de l'autre, les centres ils sont jamais arrivés. Mais le problème, quand tu centres, qui va reprendre? Tu voyais personne, que ce soit Martial, que ce soit Griezmann, ils n'y étaient pas. Oui. Il y a eu un centre, c'est Rabiot qui est venu mettre la tête pour qu'on marque le but.
Manu.
Donc il y a aussi des opportunités, oui, quand il faut centrer, et des opportunités où il faut jouer le jeu.
Manu, est-ce que dans cette équipe de France où on le sait depuis quelques années, on a une super génération sur de nombreux postes, on a quand même l'impression que le poste d'arrière droit, un petit peu comme celui d'arrière gauche d'ailleurs, c'est celui sur lequel la réserve est la moins profonde.
Je suis pas d'accord avec toi.
Mais justement, est-ce que Manu et Oussem, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et si c'est pas Pavard, si c'est pas
à gauche, on est fourni en tout cas à gauche.
Vous mettez qui à droite?
Et Nordi Mukiele, Manu, qui a été appelé.
Bah oui.
Titulaire à Leipzig, même s'ils ont très mal démarré la saison.
Pourquoi il a pas fait jouer?
Mais on parle d'un joueur qui est titulaire à Leipzig, qu'on connaît peu, qui a peu de vécu au plus haut niveau.
Mais on s'en fout, ça, Thibaut. Quelque part, Chouameni, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a fait jouer.
Je suis totalement d'accord avec toi, Manu, sur ce coup-là. Après, Manu, je suis totalement d'accord. Il faut laisser. Je comprends bien qu'au niveau de la hiérarchie, tu ne peux pas l'essayer tout de suite. Ça, je veux
mais
bien l'entendre,
Rix,
parce que ça peut être difficile. Ça peut être difficile à faire accepter à celui qui est dans le groupe depuis un moment. Ça, je peux comprendre. Non, c'est du management.
Ah non, je suis pas d'accord.
T'es
avec
pas d'accord
toi.
Avec ça.
Je suis pas d'accord avec toi parce que le joueur qui est bon et qui est en forme actuellement, il faut le faire jouer. Il y a pas de raison.
C'est un argument.
L'entraîneur, il doit pas prendre des considérations que ça. Il doit pas prendre et se dire, oui, je vais peut-être pas le faire rentrer parce que celui qui est à son poste actuellement, il va mal le prendre. On s'en fout. Lui, il veut que ce soit les joueurs compétitifs et qui lui fassent gagner des matchs.
On parle de l'exemple. Vous me parlez de l'exemple de Mukiele. Pourquoi pas? Mais sauf que il fait un très bon début de carrière. À Leipzig, il est bon. Il y a pas de problème.
Oui.
Mais on ne peut pas être certain que ce soit une pépite, que c'est un futur taulier
d'équipe
de France.
Si tu l'essayes pas.
Mais oui, mais la question, si tu le fais jamais jouer, tu pourras jamais savoir.
La question est, est-ce que sur ses côtés, en équipe de France, on a une réserve suffisante? Moi, je vous dis, je pense que non.
Si.
Vous m'assurez que si,
à gauche,
on peut pas en être certain.
À gauche, c'est une certitude.
On peut pas en être certain avec Mukiele ou avec Dubois ou même Pavard sur ce poste derrière droit.
Oui, mais déjà, c'est une histoire
mais
de profil. Mais
Hernandez aussi, non?
Oui, sur le côté gauche. Non, mais sur le côté gauche, on est fourni ça. Je sais pas ce qu'il raconte.
À droite, c'est vrai qu'on est peut-être un peu moins fourni, mais après, est-ce qu'on arrive dans les centres de formation à sortir des arrières latéraux?
Non, mais dans ce cas-là,
à droite.
Vous me parlez à gauche qu'on est suffisamment fourni. Hier, on se retrouve avec Lucas Digne.
Oui, mais il y a Théo Hernandez que pareil.
Ils sont pas là hier.
Mais il est sur le banc. Didier Deschamps ne veut pas l'essayer. T'as Ferland Mendy qui revient et qui est aussi adepte du poste. T'as Lucas Hernandez qui va revenir. Non. Gauche, on est vraiment bien muni.
C'est Lucas Digne.
À droite, je suis d'accord avec toi, mais moi, là où je rejoins Manu sur le fait d'essayer les joueurs, c'est que tu peux, t'as Nordi Mukiele, t'as un jeune joueur qui est avec les espoirs, qui s'appelle Kaloulou, qui joue au Milan AC, et lorsqu'il joue avec les espoirs, il est très bon, c'est un habitué du poste, pourquoi ne pas l'essayer lui aussi? Pourquoi s'entêter à mettre des défenseurs centraux à droite? Manu, je pense qu'à son époque, si tu mets un défenseur central à droite, il t'aurait dit oui, ben non, moi je suis là, il y a des vrais latéraux.
Il est 13h36, vous êtes sur RMC, c'est l'intégral foot avec Manu. Manu Amoros, notre membre de la Dream Team, notre champion d'Europe 84-22 sélections en équipe de France au poste d'arrière droit, d'arrière gauche.
Alors si je jouais plus souvent ou à droite ou à gauche,
c'est une question qu'on s'est posée.
C'est la vraie question parce que oui, Manu,
qu'en équipe de France, j'ai joué plus à droite.
Ouais, ah, t'as joué beaucoup faux pieds dans ta carrière aussi, faut le dire.
Et moi, quand tu as des deux pieds, c'est comme ça, hein, tu n'as aucun problème. J'aurais pu jouer à droite et à gauche.
Alors, justement, on va profiter de ta polyvalence, Manu, parce que on parlait de ce poste d'arrière droit, un petit peu d'arrière gauche, mais on va s'intéresser à ce problème de la défense française dans son ensemble, parce que c'est un cinquième match nul consécutif. Pour la cinquième fois de suite, l'équipe de France
encaisse le premier but.
Exactement, et encaisse le premier but. Comment tu expliques la défense, c'était la base du titre de champion du monde de Deschamps en 2018. Comment tu expliques autant de difficultés en 2021, Manu?
Bref, c'est compliqué de dire que l'équipe de France a des grosses difficultés parce que sur l'ensemble que tu vois les joueurs, c'est tous des joueurs de grande qualité. Après, sur le terrain, le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à s'organiser comme ils devraient le faire à la perte de balle. À la perte de balle, quand tu vois le but d'hier soir, c'est une perte de balle assez haute.
Oui.
Et malheureusement, il y a eu un contre. Ce ballon est revenu dans l'axe et il y a eu personne dans l'axe. Personne dans l'axe pour pouvoir récupérer ce ballon. Il y avait juste Tchaparenko qui a sans contrôle a mis une une superbe, superbe but d'une superbe lucarne. Mais après, c'est tout un collectif. Le problème, il est là.
Ouais, alors c'est tout un collectif. Sur le but des Ukrainiens hier, Kimpembe, il est fatigué quand même.
Qui?
Kimpembe, il se fait déborder là sur le côté comme un. C'est-à-dire qu'au début de l'action, il a un mètre d'avance, il finit un mètre derrière. L'Ukrainien centre, le ballon est mal dégagé par Zuma et il y a la reprise.
Mais ça, qu'est-ce qu'il veut faire? Ça aussi, des fois, tu es mal placé, tu as pas le temps de réagir et tu te fais prendre.
Oui, toi, selon toi, Manu, c'est collectif.
Des fois, on voit nous le football de l'extérieur quand on voit comme ça nous les journalistes ou autres qu'on voit les matchs, on le voit différemment. Oui. D'abord, il faut se mettre à la place de l'entraîneur. L'entraîneur, il est à hauteur du terrain. Donc, il ne voit pas tous les espaces que nous, on pourrait voir quand on est en tribune. Alors, on dit, oui, mais pourquoi il n'a pas fait un changement d'aile? Mais pourquoi il n'a pas joué avec
un tel?
Mais si tu veux, c'est compliqué quand même, parce que sur le terrain, tu ne vois pas toutes ces possibilités qui s'offrent au public par rapport à la télé et par rapport quand on est dans les tribunes.
Non, c'est important de rappeler, tu as raison, Manu.
Ben oui. Après, bien sûr que c'est pas normal qu'on soit toujours mené au score. Et que après il faut courir après le score.
Mais comment tu l'expliques, Manu? On a perdu du mordant, c'est ça? Dans les duels, on est moins mordant.
Oui, mais je pense, comme on disait tout à l'heure en début d'émission, il y en a quelques-uns qui sont encore restés avec le titre de champion du monde. Ils sont pas encore redescendus sur terre.
Et c'est vrai que
et quand tu mets ces joueurs-là, ben dans un groupe. Ben mine de rien, ça, la mayonnaise ne le prend pas. Tout ça, il y a des joueurs qui arrivent pas à faire aussi bien que des performances que d'autres.
Il y a pas mal de messages qui vont dans ce sens-là, Manu, effectivement, sur le hashtag RMC Live ou la RMC Tav qui dit: je trouve que la stratégie des Bleus, qui consiste à attendre la transversale de ouf de Pogba ou l'exploit de malade de l'attaquant, très risqué. Cela révèle un boulard énorme. Il y a Aze également qui dit: j'ai un problème avec l'équipe de France hier. Je n'ai pas vu un sourire, des yeux dans le vide, des mains graves. Il y a aucun plaisir. On peut douter de l'ambiance du groupe. Il nous parle des égos impossibles. Les égos impossibles. Possible d'avoir un schéma de jeu avec ses égos, effectivement. Beaucoup de messages.
On a parlé beaucoup du négatif, Manu. Il y a un point positif, en tout cas, et là, on est tous unanimes dessus. On en a parlé un peu tout à l'heure, Manu, c'est la performance d'Aurélien Tchouaméni, le milieu de terrain de Monaco. Comment tu le situes?
Oussem, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, on est quand même encore premier, on a 9 points d'avance. C'est vrai que la Finlande, on les reçoit mardi prochain.
Alors,
ils ont deux matchs en retard, mais ils ont 5 points.
Il suffirait
qu'on les batte mardi prochain.
Pour être tranquille.
On a 4 points d'avance. Hein. On a 9 points, effectivement. La Finlande, on a 5 et c'est le prochain adversaire mardi. Mais ils ont 2 matchs en moins, les Finlandais.
Je te disais, Aurélien Tchouaméni, motif de satisfaction pour la plupart des analystes de football. Tu en as parlé un peu tout à l'heure. Tu as aimé la performance. Tu as aimé le fait de le lancer dans le grand bain. Au-delà du fait que ce soit un monégasque, je pense que ça te touche aussi. Est-ce que tu penses qu'il peut s'installer à ce poste-là?
Mais tu sais ce que je pense, moi. Je suis en train de penser que Didier Deschamps est en train de faire une transition. C'est-à-dire qu'il est en train d'amener des jeunes joueurs de grande qualité qui jouent dans des clubs et qui sont performants. Et petit à petit, il va éliminer certains joueurs qui vont lui faire, entre guillemets, s'il reste plus longtemps que ça après la Coupe du Monde, de l'ombre. Et tu vois, tu penses pas qu'il est en train petit à petit d'amener une certaine fraîcheur de certains jeunes?
En tout cas, on le sent
pour repartir sur peut-être une nouvelle base pour peut-être pas pour la prochaine Coupe du Monde, mais pour le championnat d'Europe et éventuellement pour la prochaine Coupe du Monde.
Ouais, Olivier Giroud, il l'a bien senti ça.
La transition.
Ouais, mais ça c'était une évidence, c'était évident. Je crois que tout le monde l'a vu, quoi.
Mehdi est avec nous en direct dans l'intégrale foot sur RMC au 32-16. Salut Mehdi.
Salut l'équipe.
Tout va bien, Mehdi, après ce match nul hier entre l'Ukraine et la France?
Je pense que t'interroges n'importe quel Français, il te dira pas que tout va bien.
À ce point-là, Mehdi, et toi, tu ne vois aucun motif de satisfaction sur cette rencontre?
Pardon?
Tu ne vois aucun motif de satisfaction sur cette rencontre?
C'est difficile d'en voir. Honnêtement, la seule satisfaction que j'ai eue, moi, c'est Tchouaméni, hein, comme vous avez dit. Hein. Honnêtement, c'était le seul éclair sur le match. Là où nous, on attend Pogba, là où nous, on attend des gens qui sont quand même là depuis pas mal de temps, des leaders, bah, ils s'effacent petit à petit. Mais je pense que là où tous les Français ont une interrogation, c'est que est-ce que le cycle de Didier Deschamps n'est pas terminé? Parce que on voit bien que ça n'a rien à voir entre la dernière Coupe du Monde et maintenant.
Si je pose la question, Mehdi, c'est que tu as ta réponse.
Non, mais il a raison, Mehdi. C'est vrai que cette fin de cycle des champs est programmée. Alors, elle est programmée, je dirais, malheureusement, après la Coupe du Monde. Mais c'est dommage qu'il n'y aurait pas.
Tu penses que ça doit venir tout de suite,
entraîneur Mehdi, pour amener une certaine fraîcheur, une certaine vision des choses et du football qui soit différente?
Ça doit venir tout de suite, Manu, selon toi?
Ah ben là non, parce qu'il y a un contrat et ils sont mis d'accord avec le président pour aller jusqu'à la fin de la Coupe du Monde 22. Donc après il y aura sûrement un changement, je pense et je l'espère.
Merci Mehdi en tout cas d'avoir fait le 32-16, d'être venu sur RMC et à très vite. Bon dimanche à toi Mehdi.
Non, vous pensez pas aussi,
écoute, moi je pense aussi que c'est très compliqué, la Coupe du Monde arrive vite, c'est très compliqué d'installer un nouvel entraîneur. Après je suis d'accord avec toi sur la transition, mais voilà, Tchouaméni c'est une satisfaction, ça on est clair et net dessus. Après il faut prendre un peu de recul et ne pas oublier qu'à ce poste-là, il y a des joueurs comme N'Golo Kanté qui vont être très durs à déloger.
Oui. Mais il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas jouer ensemble. Hein. Et puis bon, on tape sur des champs, mais il ne faut pas oublier qu'il a fait énormément. D'abord, il a sorti pas mal de joueurs, il a été champion du monde. Il a fait beaucoup de choses.
Hein. Palmarès XXL.
Mais malheureusement, le résultat prime après sur tout ce qui s'est passé.
Il nous a amené ce titre de champion du monde, comme disait VG Dream. Didier Deschamps, merci beaucoup. 13h43, l'intégral foot continue avec Manu Amoros, le foot au programme foot européen dans un instant, parce que
des belles affiches,
nous c'est fait, mais il y a de très belles affiches.
Angleterre Andorre à 18h, Allemagne Arménie 20h45 et Suisse Italie aussi à la même heure, avec beaucoup d'enjeux notamment sur cette affiche entre la Suisse et l'Italie.
On en parle tout de suite avec nos drôles de dames sur RMC.
RMC, Intégral Foot.
Oussem Loussaïef, Thibaut Giangrande.
13h45, merci d'écouter RMC. Manu Amoros est là comme tous les dimanches 13h. Vous le savez, d'habitude à 13h, c'est la Ligue 1. On approche de la mi-temps à cette heure-ci. Pas de match. Il y avait les Bleus hier et on l'a bien débriefé en longueur avec Manu qui est là, notre membre de la Dream Team. On parlera après 14h, mais là ce sera sans toi, Manu, du reste de l'actu sport du jour, parce qu'il y a du lourd à venir aujourd'hui, Oussem.
Eh oui, puisque le top 14 est à suivre sur RMC. On reviendra sur l'affiche, on va venir sur l'affiche du jour entre La Rochelle et Toulouse. On fera donc un point aussi US Open. La France qui ne gagne toujours pas, Thibaut. Pas de Français en deuxième semaine. Est-ce que tu es étonné?
C'est fou.
Incroyable. Et puis on aura un petit mot de Formule 1 avec Jean-Luc Roy. Max Verstappen à domicile peut-il s'imposer face à Lewis Hamilton?
Les champions d'Europe sont de retour ce soir. L'Italie est en Suisse à partir de 20h45. Les deux premiers de ce groupe, c'est face à face. Et sur RMC, notre spécialiste du foot italien, Johan Crochet, est là. Salut Johan.
Salut Thibaut, Oussem.
Salut tout le monde. Johan.
Alors, les Italiens sont en tête de leur groupe, tout va bien, malgré un match nul, on va en reparler il y a quelques jours, mais surtout, ce soir, il y a un record qui peut tomber, Johan.
Et oui, là, on en est à 35 matchs consécutifs sans défaite. Pas de défaite depuis le 10 septembre 2018. On approche les 3 ans. Bientôt la petite bougie sur le gâteau d'anniversaire. Et donc, pour battre ce record, parce qu'il est détenu avec l'Espagne et le Brésil, il faudra battre, ou en tout cas faire match nul. Ensuite, ne pas perdre, surtout ce soir à Bâle.
La pression, Manu, tu penses que l'Italie est capable de faire tomber ce record face à la Suisse ce soir?
Oh oui, je pense, oui. C'est une belle équipe quand même. Elle a été championne d'Europe, des super joueurs. Oui, je pense qu'elle peut le battre. Elle peut battre la Suisse, mais il faut toujours se méfier des Suisses. Hein. Même mener 3-1 à quelques minutes de la fin, eh ben ils peuvent revenir et gagner au pénalty. Donc ça va être un super match. Il va falloir regarder. Hein.
Johan, on a retrouvé nos champions d'Europe, tes champions d'Europe contre la Bulgarie jeudi. Match nul, un partout. C'était comment? Une petite surprise ce résultat?
En fait, ça dépend comment on analyse. Si on prend le résultat brut, effectivement, c'est une déception de ne pas battre la Bulgarie à domicile. Si on prend le contenu du match, j'ai repris les stats pour vous, 80% de possession, 27 tirs dans le match. Presque 3 expected goals sur la rencontre. Donc, c'est en quelque sorte les buts attendus, les buts qui devraient être marqués. Allez, on va dire ça comme ça pour vulgariser un petit peu.
Oui.
Voilà, exactement. Mais non, la prestation, elle est bonne. Le vrai problème, ça a été la finition. C'est un problème qui revient très souvent avec l'Italie. On l'avait déjà avant l'Euro, en se disant, ce numéro 9, est-ce que ça sera Immobilier? Est-ce que ça sera Belotti? Est-ce que ça sera un autre? Et puis, ils ont gagné l'Euro comme ça, en se posant toujours les mêmes questions. Et puis, on recommence avec toujours la même question. Voilà. Donc, Immobilier a vraiment pas été bon. Et donc, ce soir, on commençait à se dire, est-ce que ça sera Immobilier? Est-ce que ça sera un autre? Est-ce que ça pourrait être Moise Kean? Est-ce que ça peut être le jeune Scamacca, Raspadori? Et visiblement, ce sera encore Immobilier.
Et c'est ça. On change pas une équipe qui gagne.
Tu changes pas toi Manu, même si d'efficacité
offensive. Mais pourquoi tu veux
changer? C'est en panne d'efficacité.
Mais alors, qu'est-ce que ça peut faire? Et ça fait 35 matchs, ils ont pas perdu.
Mais il faut marquer des buts quand même, Manu.
Mais il faut peut-être marquer des buts, mais il faut
26 tirs, nous disait Johan. Plus de 20 tirs.
Alors, ça, c'est comme, tu sais, dans les matchs où tu fais un beau 0-0, tu sais, et que tu joues à l'extérieur, et que d'un seul coup, l'entraîneur, il change un ou deux joueurs parce qu'il a envie de mettre du sang en frais, et c'est là où tu prends un but. Pourquoi tu veux changer quelque chose qui fonctionne bien?
Johan, sur l'équipe de ce soir, Immobilier a priori va être reconduit. Pour ce qui est le reste du 11, les 10 autres joueurs, c'est l'équipe championne d'Europe.
A priori, il y a 3 changements quand même. Florenzi qui a été
fatigué.
Pas très bon.
Oui, c'est très 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 compliqué pour lui. Ouais, contre la Bulgarie, sera remplacé par Di Lorenzo qui avait finalement fait quasiment tout l'Euro puisque Florenzi s'était blessé. Acerbi en défense centrale sera remplacé par Chiellini, c'était prévu, même si Acerbi a pas bien joué non plus contre la Bulgarie, notamment sur le but où il n'anticipe pas vraiment l'attaquant qui plonge dans la surface de réparation. D'ailleurs, Acerbi et Florenzi sont annoncés en tribune. Donc
ah oui, carrément.
Pour ce soir. Et puis le troisième, apparemment, selon les dernières infos de Sky Italy, Verratti qui est touché un petit peu au genou. Devrait être remplacé par Locatelli. Donc c'est aussi une dynamique qu'on a vu à l'Euro, hein. Avec Jorginho et Barella, on l'a vu aussi à l'Euro. Donc voilà, donc ça sera le classique: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson, puisque Spinazzola est toujours blessé. Au milieu de terrain, Barella, Jorginho, Locatelli, et devant Chiesa, Immobile et Lorenzo Insigne, qui doit lui aussi se racheter de son très mauvais match contre la Bulgarie.
Ouais, Johan Crochet, merci. Johan, Suisse Italie donc ce soir 20h45, les deux premiers du groupe C face à face.
Dans un instant dans l'intégrale foot avec Manu Amoros, on s'intéresse aux deux autres affiches du jour, Allemagne, Arménie et Angleterre, Andorre, mais on va tout de suite reprendre la direction. Pourquoi tu rigoles?
Non, parce que tu veux parler de ces matchs-là.
Ouais.
Il y a quand même Belgique, Tchèque, qui est pas mal.
Mais
quoi,
faut faire, la vie est faite de choix.
Ah d'accord, ok. Manu, quel choix, mais tu as fait fantastique.
Ouais. Et puis en Belgique, on a aussi moins de drôles de dames.
Exactement.
On va pas se mentir. Direction Tokyo, la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques. Morgane Maury est toujours sur place. Autour de l'équipe de France, Morgane.
Et avec le défilé des porte-drapeaux, Alexandre Léauté, le cycliste, est dans le stade olympique avec le drapeau français à la main dans ce caouet bleu, blanc et rouge. Il est précédé par le champion américain de basket fauteuil Matt Scott. Et derrière lui, il y a le champion de tennis de table japonais Koyo Iwabushi. Il va ensuite, le français, aller prendre un petit autocollant argenté pour aller le poser sur une réplique de la Tokyo Skytree, qui est la plus grande tour de Tokyo, qui fait pratiquement 700 mètres, 800 mètres de haut, et la fête va se poursuivre. On voit beaucoup les Français s'agiter dans leur tenue bleu, blanc, rouge. On ne peut pas les manquer dans le stade, ils sont déjà en train de faire la fête. On voit notamment Rémi Boulet, le kayakiste, avec ses cheveux teints en bleu, ses gros muscles et ses tatouages, qui est très content d'être là. Voilà, ça fait la fête, c'est la boîte de nuit, et les athlètes qui arrivent dans le stade avec des musiques de jeux vidéo et d'animé japonais, Thibaut. Voilà.
Ah, ça va lui plaire, ça, Thibaut.
C'est quoi comme jeu vidéo?
Le défilé, je ne les reconnais pas, Thibaut. Là, je vais demander aux spécialistes.
Tetris, Mario, c'est certainement.
Non, c'est un peu plus pointu que ça. C'est un peu plus pointu que ça.
D'accord.
Ça, j'aurais reconnu. Ouais,
c'est pas Call of Duty ou non plus. Bon. Merci, Morgane. On suit avec toi cette cérémonie de clôture. On te retrouve tout à l'heure. On sera également en direct du Trocadéro à Paris, puisqu'il y aura, lors de cette cérémonie de clôture, la cérémonie de passage de drapeau de Tokyo à Paris. Nous sommes au Trocadéro et on vous racontera comment ça se passe depuis Paris, où il y a d'ailleurs environ 1 000 de personnes sur place. Poursuivre cette cérémonie. 13h50 de retour au foot avec
Manu. Oui, l'autre match choisi, même si Manuel Amoros n'est pas content, c'est non. Allemagne.
Moi, je ne suis pas content. Je suis un peu déçu Allemagne. De ce choix.
Ça lui rappelle des mauvais souvenirs.
Oui, toi, de toute façon, dès qu'on te parle de l'Allemagne, tu n'es pas bien.
C'est sûr que sur le moment, ce n'était pas exceptionnel. Mais bon, maintenant, c'est du passé. C'est des moments merveilleux.
Oui. En tout cas, avec nous, on a celui qui connaît l'Allemagne mieux que personne. Le match est à 20h45 face à l'Arménie. Polo Breitner est là. Salut, Polo.
Salut, les amis.
Polo, tu te rends compte, Polo, dès que tu viens, Manu Amoros n'est pas content. Tu te rends compte?
Ah, mais tu rigoles.
Mais pourquoi je suis pas content?
Je suis super content que Manu soit sur RMC. Parce que Manu, c'est en France, et voilà, les années 80, c'est ça.
Oui, mais t'étais bien content aussi que l'Allemagne soit plus performante face à Manu, quand même.
À l'époque, je n'avais pas encore changé de camp. Je n'avais pas un traître.
Et on le rappelle, hein, Manu.
Non, mais c'est difficile de comparer les époques aussi. Oui, alors, commençons pas à faire des comparaisons.
Cette frappe sur la barre en fin de match face aux Allemands, si elle était rentrée, on n'aurait jamais parlé de Séville 82.
C'est vrai.
Il y avait le match contre la Tchécoslovaquie aussi, un jour, qu'il faudra déconstruire quand même. En foule.
Bon, on va plutôt parler d'Allemagne-Arménie pour l'instant, 20h45. Match très important, Polo, pour les Allemands, parce que l'Arménie, c'est le leader du groupe, les Allemands sont le deuxième.
Oui, alors on peut voir ça comme ça. On peut se rappeler que les Arméniens ont joué 3 fois l'Allemagne, ils en ont pris 15, 5 de moyenne. 5 de moyenne. Ce qui est sûr, c'est que l'Arménie, ben, il se débrouille bien. On connaît tous Mkhitaryan, mais il y a 2-3 joueurs que je connais. Il y en a un qui est notamment un attaquant d'Offenheim, Arménien. Et donc, ça se débrouille pas mal. Si tu veux, en ce moment, en Allemagne, on fait un peu la gueule de bois. Déjà parce que le match contre Liechtenstein a été assez catastrophique, malgré 85% de possession de balle. Donc, il y a eu un non-match.
Et une victoire 2-0 quand même.
Problème, ouais, victoire 2-0, mais il y a toujours les mêmes problèmes. Ça fait 5 ans que ça dure. Ça, j'ai entendu les stats de Johan pour l'Italie contre la Bulgarie, mais là c'était 30 tirs contre le Liechtenstein. Il n'y a que 2 qui sont rentrés, et encore, il a fallu une super passe, un décalage de Moussiala pour Werner pour que ça rentre. Et en fait, si tu veux, là, en Allemagne, là, il faut absolument que cette génération, que cette sélection 1, l'emporte, évidemment, à Stuttgart, il y aura 18 000 spectateurs attendus, on s'attend quand même à une victoire, mais qu'il faut regagner la sympathie du peuple allemand et des supporters qui a été perdue depuis des années, ça c'est l'héritage aussi laissé par Joachim Löw, et en fait, de faire comprendre que la sélection allemande n'est plus une équipe du top mondial et du top européen, et il faut retrouver, ben, on va dire, des fondamentaux. Donc on est passé en défense à 4, donc on a arrêté la blague des défenses à 3 pendant l'Euro, que d'ailleurs les joueurs ne voulaient pas, hein, c'est juste un choix du sélectionneur. Et puis ce soir, il y a le retour de Manuel Neuer, parce qu'il était absent contre le Liechtenstein. Il y a quand même des absents, Gossens au poste d'arrière-gauche, Havertz devrait aussi être forfait. Et donc on s'attend à David Rome sur le côté, j'en avais parlé un petit peu dans l'after, de David Rome, qui est un peu la surprise de la saison dernière en seconde division à Fürth, qui a été transféré au Offenheim et qui pourrait ce soir être fêté sa première sélection, donc un arrière latéral très très offensif. Et puis il y a l'animation offensive, donc est-ce que ça va être Marco Reus, puisque Thomas Müller n'est pas là, est-ce que ça va être Marco Reus? On attend beaucoup des latéraux, Gnabry, Sané qui a été le meilleur joueur contre Liechtenstein d'ailleurs, et donc on va repasser dans un 4-4-1 très classique, mais se pose toujours la vraie question du foot allemand en ce moment. Ce pays a l'histoire des attaquants, qui n'a plus d'attaquants, et depuis ça fait 5 ans que ça dure, et on n'y a pas de Lewandowski.
La légende du numéro 9 allemand n'existe plus.
Voilà, et ça va être un petit peu compliqué, et on l'a encore vu contre Liechtenstein.
Merci Polo Breitner. Allemagne-Arménie, c'est à 20h45 ce soir. On conclut notre tour d'Europe du foot dans l'intégral foot sur RMC avec Julien Laurence en Angleterre. Salut Julien.
Salut à tous.
Salut Julien.
Salut Julien.
Les Anglais, finalistes de l'Euro, affrontent Andorre à 18h40.
Ça va être difficile.
Toi, en 4 matchs match. Dans quel ce match. Groupe de qualification mondiale.
Il va se régaler, Julien.
2022.
Alors... Et au moins, il va avoir des buts, lui. Hein.
Tiens, bah justement, commençons par le sportif. Quelle équipe, là, pour les Anglais? Sancho et forfait, c'est à part lui, c'est la grosse équipe, Julien?
Non, je crois pas, non. Je pense qu'on peut s'attendre à pas mal de changements. On pourrait peut-être même voir 9 ou 10 changements faits par Southgate pour ce match. Ah oui, parce que le match qui suit ensuite mercredi en Pologne,
la Pologne
sera largement plus compliqué que celui de ce soir. Donc tu peux pas mettre 3 fois d'affilée tes 11 titulaires. On a vu les 11 titulaires contre la Hongrie avec une très belle deuxième mi-temps. Deuxième période, donc là je pense pas qu'il remettra les mêmes pour les remettre ensuite après contre la Pologne, donc il devrait faire pas mal de changements, peut-être un Patrick Bamford à la place de Kane en pointe par exemple pour sa première sélection, on pourrait voir les jeunes, Jude Bellingham et Bukayo Saka, on pourrait voir Jesse Lingard aussi que Southgate aime beaucoup, même s'il n'est pas titulaire, il n'a pas beaucoup joué avec United cette saison, donc je pense que pas mal de changements, ça restera très compétitif et ils gagneront sans aucun souci, mais c'est vrai qu'on se projette déjà vers la Pologne de mercredi soir.
Oui Julien, surtout ce match arrive dans un contexte un peu particulier, c'est le match d'après face à la Hongrie, on le rappelle, il y a eu des cris racistes à l'intention des joueurs anglais. Dans quel contexte psychologique se trouve la sélection anglaise?
Alors c'est pas la première fois, donc c'est vrai moi je trouve qu'ils ont plutôt bien géré la façon dont les joueurs ont réagi ou pas réagi ou réagi de manière assez amusante, on va dire, avec Rice et Mount qui ont récupéré les gobelets pour faire semblant de boire avec. J'ai trouvé que la réaction et de Southgate et des joueurs, d'Harry Kane notamment, et puis la fédération aussi dans son ensemble et même du gouvernement a été très très efficace, très bien, beaucoup plus que la fédération hongroise ou même la FIFA, l'UEFA, tout ça. Donc eux, c'est pas la première fois, ce sera pas la dernière, ils le savent, mais c'est un tel contexte, je trouve qu'ils le gèrent beaucoup mieux, même si encore une fois, ça devrait pas exister, mais ils le gèrent très très bien, j'ai trouvé. Donc à mon avis, il y aura pas il n'y aura pas de conséquences, si tu veux, psychologiquement. C'est un match à Wembley qui sera plein ou quasiment plein, on va dire. Tout le monde sera content de les revoir après l'Euro. Ce sera le premier match à domicile depuis la finale de l'Euro perdue. Donc, ils seront très contents de retrouver leurs joueurs. Ça va être une fête plus qu'autre chose. Et justement, je pense que les supporters montreront peut-être encore plus d'amour envers leurs joueurs après ce qui s'est passé jeudi soir que s'il n'y avait pas eu ce qui s'était passé en Hongrie.
Et ce sera mercredi. Mais
qu'est-ce qu'on peut faire contre ça, l'UEFA ou la FIFA? Qu'est-ce que peuvent mettre en avant comme sanction contre ces pays-là qui, malheureusement, dénigrent chaque fois beaucoup, beaucoup de joueurs. Parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive, en plus. Et il n'y a jamais eu de sanction. Quel pouvoir et quelle sanction on peut leur donner à ces gens-là?
Julien, tu as un avis là-dessus?
Oui, alors rapidement, ce qui est incroyable, Manu, c'est que ils ont été condamnés à jouer à huis clos par l'UEFA après le match contre la France à l'Euro où on avait eu les mêmes cris de singe envers certains de nos joueurs. Sauf que la FIFA, là, c'était un match FIFA, donc match FIFA et match UEFA, c'est pas la même chose. Donc la suspension est pour le match UEFA, ce qui en soi est hallucinant.
Problème, ça aussi.
mais pour moi, pendant un an, tu joues à huis clos, ça va les calmer sérieusement. Et si après, en plus, t'arrives à cibler, et en plus, c'est assez facile maintenant avec toutes les caméras de vidéosurveillance, les images télé et tout ça, tu peux savoir très bien qui a fait les cris de singe. Ils ont plus leur place dans un stade, et puis j'espère que comme ça au moins tu pourras améliorer un petit peu cette atmosphère là parce que effectivement c'est pas tous leurs supporters.
Julien, on a plus le temps,
Julien, pourquoi on s'attaque pas à ces gens là au lieu de faire le huis clos? Il vaut mieux s'attaquer à ces gens là et faire sortir et de faire et comme ça on fait pas de huis clos,
de
parce que là
ils pénalisent
les vrais supporters qui ne crient pas au stade.
Merci Julien, Julien d'avoir été en direct.
Merci
sur
les gars. Merci
Angleterre Andorre, c'est ce soir à 18h. En attendant, la Pologne, mercredi, Pologne deuxième de ce groupe. Manu, merci, c'est déjà fini pour toi aujourd'hui.
L'Angleterre, elle va gagner, hein? Oui, non.
Angleterre Andorre, ça peut être.
Manu, tu remets en doute nos choix éditoriaux et ça
putain,
va pas.
Non, mais la prochaine fois, vous me consultez quoi, pour les choix. Parce que...
Manu, c'est quoi? Oui. On se retrouve dimanche prochain à 13h.
Ouais.
Il y aura un Montpellier-Saint-Etienne, ça va être bien.
Tu vas kiffer.
Ça va être calmer.
Ouais, mais nos deux attaquants Montpellier sont partis. Hein.
Ah, exactement. Allez, 0-0. Salut Manu, passe une bonne semaine.
Merci.
C'est sur RMC dimanche prochain à 13h. Dans un instant, place au rugby parce qu'il n'y a pas de Ligue 1, mais il y a le retour du top 14. Une énorme affiche ce soir. La Rochelle, Toulouse, on en parle tout de suite.
RMC Intégral Foot.